Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Le retour de Mario Dumont.
Deux heures d'info. De 15 à 17.
Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux.
Mario Dumont et Vincent Desureaux.
Le retour de Mario Dumont.
Et c'est presque l'été. Bon vendredi tout le monde. Notre dernière de la saison. C'est ma dernière. Bonjour Vincent.
Salut Mario.
Parce que toi, c'est le contraire. Là. Toi, c'est ta dernière en cette collaboration, mais tu amorces un nouveau défi pour une émission d'été qui s'amorce lundi. Là.
Absolument, mais je suis en forme. Est-ce que tu es content? Comment tu sens ça, partir en vacances?
En tout cas, donc cette semaine, on s'est senti l'été. Là. On n'a pas l'impression qu'on... Tu sais, il m'est arrivé de partir en vacances dans une semaine qui a l'air automnale. Tu dis, voyons, ça va être quoi ces vacances-là? Mais disons que là, on a... On sent qu'on va pouvoir y goûter pleinement.
Et je me souviens, parce qu'on a quand même passé à travers en ondes les derniers mois, là, et je me souviens quand même au plus fort de la pandémie, je me souviens que tu disais, je sais même pas si tu vas prendre des vacances cet été, ça va-tu valoir la peine?
On savait plus si on allait avoir un été.
Ben, c'est ça. Et reste quand même, avec le on n'a pas l'été à 100%, toutes les activités, mais je pense qu'on va le savourer, tout le monde, tout ce qu'on a finalement et qu'on n'attendait plus. Là. Alors, j'espère que tu vas en profiter.
On va faire des choses plus simples, puis on va les apprécier.
Oui.
Bon, commençons avec le bilan. Bon, depuis une couple de jours, est-ce qu'il faut y voir une tendance lourde ou quelques hasards, là, quelques dents d'ici, mais on n'est plus en amélioration jour après jour. Là, hein?
Non, on espère vraiment que c'est pas une tendance. Peut-être qu'on cible mieux aussi les tests. Hein? On se questionnait, on avait de la difficulté à avoir des gens pour passer des tests. Est-ce qu'on cible mieux? Du moins, on le souhaite parce que effectivement aujourd'hui, 167 nouveaux cas. Évidemment, on a vu bien pire au Québec, mais on a eu des chiffres en bas de 100 là, il y a quelques jours. Et souvent, c'est quand même des tendances qui sont assez stables, les cas qui vont prendre une tendance d'un côté comme de l'autre. Alors, on va espérer qu'on voit ça changer pour le mieux dans les prochains jours. Sinon, au niveau des décès, 35 nouveaux décès, 5 dans les dernières 24 heures, on en ajoute 30 survenus avant le 11 juin. Là où ça continue de baisser, par contre, et ça, c'est toujours encourageant, c'est dans les hospitalisations, moins 63 aujourd'hui. On descend là, toujours d'une cinquantaine et plus par jour. Donc, on est à 574 personnes hospitalisées. Ça fait pas si longtemps, on était à plus de 2000. Et 62 personnes aux soins intensifs, c'est une diminution de 3. Alors, pour le réseau de la santé, là, c'est des bonnes nouvelles, mais disons que les cas, on va les surveiller, surtout qu'on est en déconfinement. Ouais. On voit qu'ailleurs, tout n'est pas parfait. Alors, va falloir.
Tu nous parlais du lien entre la stratégie de test et peut-être le nombre de nouveaux cas. Mais là, quand même, un changement majeur dans la stratégie de test et qui est susceptible de toucher tous les citoyens.
Oui, on apprenait dans les dernières minutes que tous les patients qui vont se rendre à l'urgence, qu'ils présentent des symptômes de la COVID là, ou non, vont devoir se faire dépister. Le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a fait parvenir aux dirigeants des établissements de santé dans les dernières heures cette nouvelle directive, donc dans un courriel, on écrit aux dirigeants d'appliquer systématiquement les nouvelles directives, dont celle de tester les patients asymptomatiques qui se présentent à l'urgence. Pas nécessaire pour ceux-ci là, d'attendre l'obtention d'un résultat avant l'admission dans l'établissement, ou même d'avoir leur congé, mais au moins on pourra tester une partie de la population malades, ou du moins qui ont certains problèmes, ou au moins d'avoir des gens qui pourront faire les tests et qui seront suivis. On a dépassé les 15 000 tests en une journée à la fin du mois de mai, mais là, on baisse pas mal, même que dimanche dernier, on était à autour de 5 000 tests, alors que hier on était autour de 10 000. Alors, c'est pas si mal, mais on veut augmenter les tests. D'ailleurs, l'objectif est d'en avoir 20 000 par jour encore là, d'ici les prochaines semaines et les prochains mois.
Est-ce qu'on a une date d'implantation de cette nouvelle politique?
Ben, écoute, on dit c'est ça. À mon avis, c'est dès que possible. Donc, on dit
tout demain matin.
Bonne question, parce que pour certains, ils vont faire le saut.
À mon avis, il y a un petit peu de temps là, pour que les tests soient disponibles aux entrées des urgences, la façon de les faire, etc.
À mon avis, dès que ça arrive, on va mettre ça en place. Et il y en a qui vont peut-être être surpris de se faire rentrer le long Q-tip là, dans le nez. Mais ce sera pour...
Est-ce que quelqu'un pourrait refuser?
Bonne question.
De donner son consentement, je sais pas. Hein?
Et rendu là,
personne dit, moi, je veux rien savoir, je me suis cassé un orteil, puis je veux rien savoir de votre test. Puis,
bonne question. On verra les détails, ça vient de sortir.
Ouais. Bon, la grosse nouvelle de ce matin, évidemment, c'était l'énoncé économique, la mise à jour économique qui était prévue. Le ministre Éric Girard qui a... Écoutez, il avait donné, M. Legault et lui, une fourchette entre 12 et 15 milliards pour le prochain déficit. Oui. On est dans la fourchette.
Oui, on est dans la fourchette. On est dans la fourchette. On peut pas aller beaucoup plus. Le 14,9 milliards. Donc, effectivement, on est au maximum de ce qui était...
C'est pas grave, mais c'est quand même drôle. Le gouvernement donne une fourchette de déficit entre 12 et 15, là. Le chiffre qui sort, c'est 14,9. Là. C'est pas 12,1.
Oui, effectivement. On voit que la facture, puis évidemment, on en parlait beaucoup au fédéral, là, la facture qui va être immense, puis au provincial aussi. C'est deux effets jumelés, là. Évidemment, des dépenses considérables, particulièrement dans les équipements. Là, parce qu'il faut dire, la course à l'équipement, là, bon, on suivait ça de jour en jour à un certain moment. Les masques arrivaient au compte-gouttes, mais les millions, eux, partaient très vite. Là. 6,6 milliards de dollars en équipement, là. C'est ce qu'on évalue là, pour d'ici la fin de la pandémie. Là, les masques, blouses, gants de protection, on en aura déjà cette année là, pour 2,3 milliards. Puis évidemment, c'est parce qu'il y avait les prix aussi se sont complètement enflammés. Là, on payait à certains moments des masques ou des gants, des prix complètement fous. Donc, il y a une facture à ça. Évidemment, là, c'était dans le but de protéger le système de santé, de le garder à flot. Et ça valait probablement la peine, mais la facture sera là. Et donc, ça, il y a des coûts évidemment immenses, des plans de sauvetage, des plans d'aide. Mais là où il y a un immense trou aussi, c'est dans les revenus là, de l'État. Donc, 8,5 milliards. On tablait...
Tout le monde arrête de travailler, reste à la maison. Ça en fait quelques-uns qui, tout à coup, ne payent plus d'impôts. Là.
Évidemment. Donc, c'est énorme. On prévoyait, on se souvient là, de ce budget du ministre des Finances qui est arrivé tout juste avant la COVID. Bon, on se doutait bien que ces chiffres-là n'allaient pas tenir, là, mais on visait une croissance de 2% pour le PIB. Finalement, ce sera une contraction de 6,5. Donc, les revenus qui font de plus de 8 milliards. Impact sur la dette brute du Québec de presque 23 milliards là, qui sera gonflé cette année. Et la dette brute en 2021 du Québec va atteindre 222 milliards. Pour la partie retour à l'équilibre budgétaire, ben on se donne quand même une fenêtre pas trop longue, là, 5 ans. C'est l'objectif d'Éric Girard, ce qui qualifie quand même d'ambitieux. Par contre, encore beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur la suite des choses. Je vous fais entendre là-dessus le ministre des Finances.
Il y a de l'incertitude quant à la possibilité d'une deuxième vague, l'espoir d'un remède, d'un médicament, d'un vaccin. Incertitude sur le volume des échanges commerciaux, l'état de santé sanitaire de nos voisins, de nos partenaires commerciaux, incertitude au niveau des chaînes de production. Et donc, nos prévisions sont attachées d'un degré d'incertitude qui est plus élevé qu'à l'ordinaire. Nous nous donnons des objectifs ambitieux pour la suite. D'abord, économiquement, nous voulons retrouver à la fin 2021, le niveau de production que nous avions en décembre 2019.
Et on veut faire ça, Mario, sans hausse d'impôts. Il l'a répété, s'est fait poser la question, M. Girard promet, c'était une promesse électorale, et ça, COVID ou pas, on va respecter ça, pas de hausse d'impôts prévue, même si on est dans le rouge, pas à peu près. Là.
On a quand même fait des provisions significatives là, pour la deuxième vague. Là. 4 milliards pour au cas d'une deuxième vague, c'est quand même une... que ça me paraît prudence. Effectivement, c'est très imprévisible parce que si la deuxième vague, provoque des petits confinements locaux ici et là, une région, une entreprise, peut-être que l'impact financier pour le gouvernement pourrait être pas si épouvantable, tu sais. Alors que si la deuxième vague frappe fort, autant en termes sanitaires, d'achat, d'équipement, santé, etc., qu'en termes de pertes économiques, pour avoir une autre claque là, peut-être pas équivalente, là, mais comparable à ce qu'on a vécu ce printemps.
Et comme on dit souvent, une des clés, c'est les tests. Là. Ben, tu sais, avoir le, vu les coûts de faire des tests, là, c'est vraiment c'est négligeable là, par rapport au coût de perdre le contrôle. Parce qu'on dit là, 500 000 tests là, de dépistage, pour l'instant, ça a coûté à peu près 25 millions de dollars. On prévoit...
Ce qui est du change là, dans ben, l'ordre actuel des pertes et des
sur le 15 milliards, on prévoit dépenser d'ici la fin de l'année financière, peut-être autour de 200 millions de dollars en tests, là, avec 20 000 tests par jour, ce qui est quand même énorme. Donc, on s'entend, je pense que le coût des tests, il n'y a pas de problème. Là. C'est pour ça qu'on est, on veut que les gens se fassent tester, puis on va tester les gens dans les hôpitaux, parce qu'on a plus de gains que de coûts à tester davantage.
Et pendant ce temps, ben écoute, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait une nouveauté. C'est quand même un déconfinement rapide. Il y a quelque chose de neuf chaque jour. Puis encore une couple d'affaires quand même majeures aujourd'hui, là, dont dans les CHSLD. Je sais que ça fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que ça fait une espèce d'unanimité sociale, mais les gens qui travaillent à l'intérieur, qui ont vécu le cauchemar, disent on prend un risque.
Il y a une inquiétude. C'est ça. En fait, c'est un mélange d'émotions. Là, parce qu'on comprend que pour des gens en CHSLD, de pouvoir... Sortir, recevoir des visites, rencontrer des gens à l'extérieur, participer à des activités de groupe avec certaines conditions, mais là, de pouvoir quand même le faire, c'est la bienvenue là, pour beaucoup de gens qui demeurent dans les CHSLD. Et là, aujourd'hui, donc, ça commençait possible pour les usagers de faire tout ça, sortir hors de l'installation pour plus de 24 heures. Évidemment, ce sont pour des CHSLD où il n'y a pas de COVID. Le recours des bénévoles sera autorisé d'ailleurs dès le 26 juin. Et où il y a de la COVID, c'est seulement les personnes infectées qui ne pourront pas bénéficier de nouvelles permissions. Là. Alors, ça permettra quand même à des gens de pouvoir sortir un peu. Les regroupements d'un maximum de 10 à 12 personnes sont autorisés également, mais les groupes doivent toujours être les mêmes. Là. Alors, il y a quelques règles, mais on adoucit ça quand même pas mal. Et pour monsieur, madame, tout le monde, les centres d'achat, les centres commerciaux, ben là, c'est autour de la communauté métropolitaine de Montréal et autour. Merci de Joliette. De rouvrir au public. Donc, ça se faisait aujourd'hui, peut-être parce qu'il fait beau aussi, parce qu'il n'y avait pas peut-être de grande urgence là, non plus à se lancer dans les centres commerciaux. Il n'y avait pas énormément de monde aujourd'hui. Je voyais des collègues de TVA Nouvelles qui sont rendus dans certains centres d'achat, Promenade Saint-Bruno, par exemple, et autres, là, où c'était quand même tranquille. Il faut dire qu'un magasin sur cinq, à peu près, était ouvert. Ça va se faire vraiment graduellement, mais il n'y avait pas de foule monstre.
Des journées comme aujourd'hui, si on se mettait en période non pandémique, l'ordinaire, les médias recommanderaient, ben, avec l'appel de la santé publique, ah oui, là, à la population, d'aller dans les centres commerciaux pour se rafraîchir. Les gens qui vivent dans des petits logements, qui ont des problèmes d'asthme pulmonaire, cardiaque, etc., il fait trop chaud, on leur suggère, là, au cœur de la journée, d'aller passer du temps à l'air climatisé. On disait ça, aller dans les endroits publics, oui, où il y a la clim, dont les centres commerciaux.
Et c'est entre autres une des raisons pourquoi on a attendu beaucoup pour ouvrir les centres commerciaux. C'est ce qu'on avait peur, là. On se retrouve en regroupement de personnes âgées. Et là, bon, on a confiance que ça peut se faire de façon sécuritaire. Évidemment, ils ont toutes les plexiglas et autres. Ce qui est fermé, c'est toujours là, les halte-bouffe, là, donc les endroits de restauration où c'est seulement pour emporter. Alors évidemment, beaucoup des restaurants n'ont carrément pas ouvert leurs portes.
C'est quand même étonnant qu'il y ait autant de... C'est quand même étonnant qu'il y ait autant de magasins fermés, là. Autant de magasins qui décident de ne pas ouvrir. Bon, le maire Labeaume, lui, qui... partant d'une bonne intention, voulait avoir une activité ludique pour sa population, un ciné-parc gratuit, etc. Il n'a pas réussi à s'entendre avec les grands du cinéma québécois, les distributeurs. Il en ressort, quoi, on pourrait dire Mossad.
Oui, oui, on peut même dire carrément en colère, ulcéré, là, effectivement. Monsieur Labeaume, clairement, il faut dire, le maire de Québec est quand même capable de démontrer quand il n'est pas content, là, et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui en conférence de presse. Le projet de ciné-parc gratuit à Québec, là, c'est à l'eau. La ville de Québec était prête à dépenser 835 000 $ dans ce projet, donc pour que les gens puissent se rendre dans des ciné-parcs gratuitement. On allait présenter des films, de vieux films, là, gratuitement. La ville payait les droits.
Oui,
respectait
ça. Il voulait présenter Daigne Dong, le film. Là,
exact.
Donc, lui, il dit que ce n'est pas en compétition avec les cinémas qui présentent les derniers films sortis.
Exactement.
Ouais, ça me paraît logique, son affaire. Je comprends qu'on peut toujours dire les gens, t'sais, ils ont un soir dans la semaine où ils vont consacrer leur sortie pour le cinéma, fait que s'ils l'ont gratuit, ils payeront pas.
Ouais, mais ce qui limite souvent une famille de sortir, c'est le budget. Là, si t'as une soirée gratuite pour aller voir Karate Kid, là, ben, tu vas aller au cinéma un autre soir, là, dans ma tête, là, si la famille a les moyens de le faire.
Les gens du cinéma se sont fait des amis à Québec.
Non, écoute, je veux te faire entendre d'ailleurs un extrait du maire Labeaume, mais aussi une de ses répliques que j'ai trouvé intéressante par la suite. Là. Vous allez sentir quand même que M. Labeaume est exaspéré. Il a rédigé une lettre, faut dire, à Patrick Roy des films Séville, à Andrew Nob du regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec, disant que c'est un manque flagrant d'empathie. Là. L'aspect concurrentiel est exagéré. On avait besoin de films d'un catalogue passé. C'est ce qu'on voulait qu'on charge à la billetterie. Et ça, on dit non. Le nœud de l'affaire est là, selon M. Labeaume. Je vous fais entendre un extrait du maire un peu plus tôt aujourd'hui.
Je serais surpris que les films Beverly Hills Cop, Ding et Dong, le film et Karate Kid, hein, on doute que ça prenne une place importante dans cette programmation. Nous aurions très bien pu nous entendre pour sélectionner des films qui n'entrent pas en compétition avec ceux présentés dans les cinémas d'ici.
Bon, et là où il marque quand même, à mon avis, toucher M. Labeaume, rappelle que, enfin, il dit dans la lettre là, qu'il envoie, le financement de votre industrie repose en grande partie sur le programme de crédit d'impôt et de subventions en provenance de la SODEC et de Téléfilm Canada, et donc de nos impôts. Par votre refus de collaborer à la réalisation de Cinéparc à Québec, vous privez les contribuables de notre région d'une activité que je qualifierais de petit bonheur en ces temps difficiles. Il est en colère.
Mais électoralement, c'est pas mauvais pour lui, là.
Non.
Il est du bord du peuple là, à deux mains. Puis en plus, je pense qu'il a raison sur le fond.
Faut dire que la ville prévoyait investir 835 000, mais il n'avait que 27 000 $ de dépensés. Mais c'est quand même 27 000 qu'on a fait brûler, là.
Voilà. Et rapidement, les gens vont avoir l'impression que tu nous rejoues la même nouvelle qu'hier, mais c'est parce qu'elle s'amplifie chaque jour. Mais le nombre de cas, bon, dans quelques États américains, où ça augmente toujours, mais ça devient spectaculaire en Floride, là, l'ampleur de la pandémie.
Oui, parce que le dernier chiffre qu'on a reçu donc de la Floride montre encore un nouveau rebond, là, un rebond quand même impressionnant. Près de 4000 nouveaux cas là, en Floride, c'est 3822 nouveaux cas. Un record, hier le record, là, c'était quand même un bonbon, et c'est 3200 cas. Faut dire qu'il y a à peine là, autour du 10 juin, on était à peu près à 1000, un peu plus au-dessus de 1000 cas par jour.
Ce qu'on disait, qu'on n'était pas capable d'aplatir la courbe parce qu'on restait à 1000 cas par jour, on n'était pas capable de descendre.
On était à 1000 cas depuis le début du mois d'avril par jour. C'était stable, au moins, mais là, ça monte. Ça monte très vite, au point où, d'ailleurs, dans le Orange County, là, où il y a eu 374 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, on oblige le port du masque. Donc, c'est les nouvelles du jour. À partir de minuit samedi soir, le port du masque en public. La ville de Tampa également va faire le même type de règlement. Alors, certaines villes en Floride qui serrent la vis parce que clairement, on a un problème avec le nombre de cas. Là.
Est-ce que le président Trump a été informé de ce qui se passait en Floride?
Mon avis, il a été informé. Est-ce qu'il a tweeté là-dessus? Il a tweeté sur beaucoup de sujets aujourd'hui, Mario.
Mais pas celui-là.
Pas sur la COVID.
Ça l'intéresse peu.
Bon. C'est secondaire.
Voilà.
Je pense.
On va revenir là, sur l'énoncé économique, la mise à jour économique ce matin à Québec avec notre prochain invité, mais je veux lui parler de plus que ça, je veux lui parler de son printemps ensuite. Alain Laforêt, correspondant à TVA Nouvelles à l'Assemblée nationale. Salut Alain.
Salut Mario.
On va se parler de ton printemps, mais commençons là, par ce qui est immédiat, la mise à jour économique. Pas d'énormes surprises quand même. Hein? D'ailleurs, le gouvernement avait déjà donné sa fourchette pour ce qui était du déficit.
Ouais, mais c'est un déficit historique quand même, Mario. Là. C'est
oui.
la troisième
oh, oui,
fois que
raison.
Le Québec écrit à l'encre rouge aussi intensément. Là, il a appuyé fortement sur le crayon, puis on peut comprendre avec la pandémie. On a quand même arrêté l'économie pendant 8 semaines, là. Ce qui fait 40%.
C'était quoi le déficit précédent, le plus gros? C'était-tu 2009, 10, 11?
Le plus énorme, c'est pendant c'est l'époque Godbout, le 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Là, ah oui, la Deuxième Guerre mondiale.
C'était vraiment énorme. Mais là, on se retrouve avec un déficit historique de 14,9, mais au hasard, il vient l'épancher avec la réserve de stabilisation qu'on vide complètement là, de 14,9 milliards. Donc, c'est une écriture comptable zéro. Mais quand même, Mario, là, puis on va essayer de pas trop donner de chiffres pour mêler les gens, là, on pousse la dette brute du Québec à 222 milliards. On est quand même en bonne posture parce que...
parce qu'elle baissait depuis plusieurs années. Là.
Oui, c'est ça. Carlos Saiton a fait un excellent travail. On a crié beaucoup contre l'austérité à raison dans certaines situations, mais ça a permis de placer le Québec dans une situation où il va pas se retrouver avec les culottes à mi-jambes parce qu'il y avait des réserves là, qu'on avait actuellement. Puis les dépenses ont été énormes. Là. On parle de 28 milliards de dollars que le gouvernement a engagé là, dans l'ensemble de ses frais COVID, mais spécifiquement au niveau des dépenses, c'est 6,6. 3,7 en santé, 1 milliard pour les travailleurs, 1 milliard pour c'est-à-dire 1 milliard pour les travailleurs, 2 milliards pour aider les entreprises, puis les fameux équipements, les blouses, les masques, les gants. Écoute, Mario, ça a coûté 2,3 milliards de dollars uniquement ça, là. Et là, t'as entendu la nouvelle qui est sortie il n'y a pas si longtemps, là. La santé publique a décidé de réclamer des tests à tous ceux qui vont aller dans les centres hospitaliers parce que les tests, ça fonctionne pas. Là, on était à 4-5 000, puis on va aller plus haut que ça. Mais ça a déjà coûté 27 millions de dollars au gouvernement, les tests. Puis on a une réserve de 200 millions d'ici la fin de l'année pour faire 20 000 tests par jour. On est loin de ça actuellement, mais c'est pour ça, probablement, que le gouvernement a décidé d'essayer d'aller tester les gens où ils sont, c'est-à-dire dans le réseau de la santé.
Au niveau des réactions des oppositions, hier après-midi, à pareille heure, je parlais à M. Létard qui disait ce qu'on attend beaucoup, nous autres, les libéraux, dans le budget, sont des mesures directes d'aide aux petites entreprises, aux PME, mais surtout aux plus petites entreprises. L'opposition dit quoi là-dessus aujourd'hui? Ils sont déçus?
Écoutez, honnêtement, là, j'ai pas eu le temps de voir ce que les oppositions ont dit, mais hier, ce qu'on voulait, c'est un plan de relance d'un milliard du côté des libéraux, et c'est pas là actuellement. Là. Ce qu'on fait, c'est beaucoup sous forme de prêts. Ce qu'on nous dit, c'est que le retour à l'équilibre budgétaire, c'est dans 5 ans, puis ça, c'était prévu dans la loi sur l'équilibre budgétaire jusqu'à maintenant. On nous dit également, et ça, ça a été un engagement qui a été repris aujourd'hui par le ministre des Finances, il n'y aura pas de hausse de taxes et d'impôts. Là. Les Québécois sont assez taxés, même qu'il a devancé la réduction de la taxe scolaire cette semaine, ce qui veut dire qu'il y avait encore de la marge de manœuvre pour essayer d'alléger le fardeau fiscal des Québécois. Mais faut dire que c'est énormément d'argent là qui sont engagés. Et on se prépare pour une éventuelle deuxième vague. Ça, le ministre des Finances l'a dit. Évidemment, au niveau de l'équipement, là, il y a des réserves qui sont faites. Il y a des entreprises qui travaillent à fabriquer de l'équipement. Ce qui fait que le gouvernement s'est gardé une petite marge de manœuvre de 4 milliards. Faut pas oublier là qu'il vient d'accélérer ses dépenses à hauteur de 3 milliards, mais ça, évidemment, c'est étalé sur 25 ans. Donc, l'impact direct ne se fait pas sentir maintenant, là, c'est pris directement dans le programme des infrastructures.
Alain, je veux qu'on te parle de ce printemps, unique sûrement pour toi, parce que tu as été le témoin privilégié d'événements complètement fous à l'Assemblée nationale. Si on se reporte, parce que là, on a une mise à jour budgétaire, si on se reporte au budget lui-même, mardi 10 mars, c'est un budget dans lequel le gouvernement du Québec mentionnait même pas la COVID, là, le coronavirus. On trouvait ça un peu bizarre.
Il y avait 200 millions. Il y avait une ligne 200 millions pour la COVID parce qu'on savait que ça s'en venait.
Ouais, mais on voyait pas. Mais deux jours après, le jeudi, vous êtes convoqué, les journalistes de la Tribune parlementaire, à une première de ces conférences de presse extraordinaires.
Ouais, et c'est là qu'on a compris qu'on aurait pu avoir un méchant problème le 10 mars. Là, parce qu'il y avait 1000 personnes. Tout le ministère des Finances était là. Tout le Conseil du Trésor était là. Les maires, les dirigeants d'entreprise, les représentants de dirigeants d'entreprise, tous les ministres ont passé dans la fameuse salle. Il y avait 1000 personnes. La seule chose qu'on a remarqué au huis clos du budget, et habituellement, il y a un buffet qui est servi, là, et les gens se servent. Là, on avait mis des gens pour se servir, puis personne n'avait le droit de toucher aux ustensiles. Mais à part ça, là, oublie la distanciation de 2 mètres, là. On était assis.
Mais c'est vrai que s'il y avait eu quelques personnes infectées dans la place, ça aurait pu devenir ce qu'ils appellent un super spreading event, là, un événement de super multiplicateur.
Un match de baseball, un match de hockey, un match de soccer, un match de basketball. C'était ça. C'est pas arrivé.
Et donc là, le jeudi, M. Legault, commence. Est-ce que vous réalisez déjà le jeudi, le vendredi, les deux premières conférences de presse quotidiennes, ce qui s'en vient? Est-ce que les journalistes, oui, là, vous ressortez, vous jasez entre vous? Est-ce que vous réalisez que là, on commence à descendre en toboggan, là, on part en haut, puis aïe aïe, ça va fermer, ça va annuler, ça arrêtera plus?
Ben, on était plusieurs à dire que le gouvernement s'en venait avec des mesures assez sévères, parce qu'on voyait ce qui se passait ailleurs. On voyait la Chine, on voyait l'Europe, puis on se disait, on n'est pas épargné, les gens continuent à rentrer. Et à partir du moment où il y a eu fermeture d'école, puis là, on a vu, au début, on était plus dans la salle. À un certain moment donné, là, les gens se sont mis à aller en télétravail. Écoute, ici, dans le bureau parlementaire, qui inclut Québécois, le Cube Radio avec Jonathan, le bureau d'enquête, on est avec les techniciens de TVA. On est une vingtaine d'habitude, là. Moi, j'ai passé 2 mois à 3 maximum, là.
En fait, c'est deux juste ceux comme toi qui doivent avoir leur face bureau, à la TV qui étaient là.
Non, mais j'étais le seul ici. Tout le monde tentait les travails. Puis il y avait le président de la tribune, Marc-André Gagnon, qui venait pour animer le point de presse et qui allait faire ses textes après ça à l'extérieur. Là. Donc le bureau ici était là. On était une bulle d'à peu près une dizaine qui quotidiennement traversait de l'autre côté. Puis à un certain moment donné, c'était toujours le questionnement. S'il y a une éclosion de cas, c'est fini. Faut faire attention. S'il y a une éclosion de cas, c'est terminé. Le premier ministre, on n'aura plus accès à lui. C'est toujours ça, le questionnement. Puis au début, il y avait plusieurs. Rappelle-toi, il y était 3-4 ministres. À un moment donné, ils sont venus 4. À un moment donné, ils sont venus 3. Puis avec des masques. Puis ça a été, même dans l'entourage du premier ministre, tout le monde a été isolé dans des hôtels, coupé de leur famille, justement pour éviter, parce que le pic, on ne l'avait pas. Et là, on dit, on ferme les entreprises, tout ça. Et tranquillement, pas vite. Et c'est ça qui était particulier. On recevait, et t'en as reçu aussi, des centaines de courriers par jour qui arrivaient par Twitter, qui arrivaient par Facebook, qui arrivaient par nos téléphones, qui arrivaient par le courriel, où des gens nous donnaient de l'information, parce que le message passait pas entre Québec puis la machine.
Ben, d'abord, tout le monde écoutait la conférence de presse. Il y avait à peu près, à un moment donné, les codes d'écoute, il y avait 3 millions de Québécois qui écoutaient les conférences de presse, à peu de choses près. Donc, les gens disaient, tout le monde écoutait ce que M. Legault ou Mme McCann disaient. Et s'il travaillait dans un hôpital, il disait, là, c'est pas ça partout qui se passe sur le terrain, là. Lui, il dit ça, mais c'est pas comme ça. Et ça, c'était une des difficultés du gouvernement, l'écart entre.
On l'a vécu, il était préposé aux bénéficiaires cette semaine, le 6 de Laval, là. C'est exactement ce qui s'est passé, là. Des postes de PAB, préposés aux bénéficiaires à 49 000 temps plein, alors on vous dit que c'est 3 jours. C'est la même affaire, les masques, les gants, les blouses, il y en a pour tout le monde. On est serré, mais il y en a pour tout le monde. Sur le terrain, il n'y en avait pas, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé, non, il n'y en a pas pour tout le monde, il y en a juste pour eux autres. On va pas dans les zones chaudes, dans les zones froides. Ben non, ça circule. C'est
pas ça, François Legault, toi qui... Ouais. François Legault, toi qui le côtoies, puis des fois, vous voyez ses mimiques, ses expressions, sa face, même quand la caméra est plus sur lui. Tu penses-tu qu'il ressort de son printemps frustré de ça? De l'impression que lui, c'est que c'est lui qui a l'air fou un peu. Là. Lui, il dit quelque chose, puis finalement, c'est pas ça que les gens font, c'est pas ça qui se passe, c'est pas exact.
Bon, le taux d'approbation est très fort, là. Je pense que dans l'ensemble, tu sais, on peut critiquer, on va refaire la genèse de ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois. Et il y aura des choses où on va dire on aurait dû faire ça comme ça. Le problème, c'est que tout le monde... Puis l'exemple, moi, que je donne régulièrement, c'est l'hydrochloroquine, qui, au début, là, écoute, je sais pas combien de mails je recevais, vous voulez pas parler d'hydrochloroquine, vous voulez pas parler d'hydrochloroquine, c'est le médicament miracle, parce qu'en Europe, là, on dit que c'est ça, puis qu'il y a un médecin qui dit que c'est ça, puis finalement, il y a eu à peu près 15 études qui ont venu nous dire, arrêtez de prendre ça, c'est dangereux. Ça a été ça pour tous les gouvernements sur la planète. C'est un virus qui est pas connu. Il y en a qui pensent encore que c'est une simple grippe. C'est loin d'être une simple grippe. Si on regarde le taux de mortalité, c'est sûr que c'est pas des gens de 20 ans qui vont décéder, c'est très peu. Mais à un moment donné, quand ton réseau de la santé est surchargé, c'est arrivé en Italie, c'est arrivé en France, c'est pas arrivé ici, heureusement. Eux, ils étaient à décider, la personne de 50 ans, on lui donne un respirateur ou on la donne à celui de 40. Ça, tu veux pas vivre ça, là. Comme médecin, là. T'as probablement vu des reportages en France où moi j'en ai vu là où t'as des médecins qui devaient appeler d'autres médecins d'autres centres hospitaliers en disant on a tel cas qui est prêt avec telle pathologie, il me reste un respirateur, qu'est-ce que je fais, je le sauve ou je le laisse aller.
Mais à un moment donné il transférait de l'Alsace, quand l'Alsace a débordé dans le nord-est de la France, il transférait par des hélicoptères de l'armée vers d'autres hôpitaux où il y avait encore de la place des soins intensifs
ou en TGV. ou en TGV, on n'a pas vécu ça ici. Le problème, c'est que c'est rentré par la porte arrière dans les CHSLD qui étaient les milieux les plus à risque. Et ça, je pense que ça a fait mal au gouvernement. Je pense que François Legault l'a pris personnellement, puis son équipe l'a pris personnellement, parce qu'on pensait qu'on était mieux équipé pour faire face à ça dans les CHSLD. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, oups, là, on l'a échappé. Puis il y aura l'enquête du coroner qui va venir. Mais oui, écoute, c'est du jamais vu. Des crises, des histoires. Écoute, ça fait 33 ans que je fais ce métier-là. J'en ai vu d'autres. Mais une catastrophe comme celle-là, écoute, on va pas revivre ça. Puis la pause qui a été mise, là, on n'arrivera pas là même pendant la deuxième vague. Là. Parce que là, le gouvernement espère que les gens vont prendre les mesures, si jamais on leur dit « Attention, le virus revient, lavez-vous les mains, gardez la distanciation. » Mais tu regardes lundi passé, là, juste le message envoyé, puis c'est un message de technicien, de médecin, le 1,5 mètre, le 1 mètre, ça, à ça 2 mètres. Plus, ouais. Non, mais c'est parce que ça, c'est un technicien. Mario, tu as déjà fait des entrevues avec des médecins, là, qui commencent à te parler. Eux autres sont dans le bulle, ils se comprennent. Mais les gens, eux autres, à un moment donné, ils disent « Voyons, c'est du grand n'importe quoi. » C'est ce que j'ai dit au docteur Arruda. Et à un moment donné, il m'a répondu « C'est 2 mètres. » Mais c'est ça qu'on a vécu. C'est qu'il faut que le message soit le plus simple et le plus clair possible. Ouais, et comme
ça s'adresse à des millions de personnes. Vu, hein?
Mais c'est du jamais vu. Donc, tu peux dire quelque chose aujourd'hui qui, demain, n'est plus bon. Rappelle-toi, et là, je vois... Diane Francoeur, qui est en onde avec Paul à LCN, la guerre qu'il y a eu avec les médecins spécialistes,
ben oui.
Où on envoyait des spécialistes dans les CHSLD. C'était une bonne idée d'envoyer des cardiologues dans les CHSLD? Pas sûr, mais on avait besoin de monde. Ouais.
Hey Alain, je te souhaite merci pour cette couverture exceptionnelle que tu nous as livrée tout le printemps, et puis je te souhaite un très bon été.
Merci à toi, on se retrouve à l'automne, Mario. C'est toujours un plaisir de te parler.
Certainement, salut. Alain Laforêt, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Vincent, rapidement, puisqu'on est toujours dans la COVID, des nouvelles mesures à l'aéroport, là. Hein?
Oui, qui vont s'ajouter dans le but. Il faut dire que l'aéroport de Montréal fait face à des gros défis financiers, là, mais on veut que les gens reviennent et qu'ils soient à l'aise de le faire et qu'ils n'aient pas peur. Alors, l'aéroport de Montréal détaillé aujourd'hui le programme Voyager en toute confiance, qui va ajouter toutes sortes de façons de faire, là, donc des masques obligatoires dans l'aérogare, contrôle à l'arrivée, donc c'est plus toutes les portes là, de l'aéroport qui sont accessibles, seulement 3 avec une station sanitaire, les gens qui se lavent les mains, il y aura des questions pour la santé, prise de température, si vous allez chercher des gens, vous rentrez pas dans l'aéroport, c'est seulement les voyageurs, seulement les employés, tout le monde a son masque, à l'exception des enfants de moins de 2 ans et ceux qui auraient des problèmes respiratoires là, ou un handicap particulier, toutes les zones de passagers désinfectées 10 fois par jour. Les taxis, donc transport pour aller et venir de l'aéroport, ce sera également la même chose. Alors, une façon de faire qui, on l'espère, va rassurer les gens à retourner voyager parce qu'évidemment, quand même plusieurs obstacles. Là. Tous les pays ne sont pas déconfinés. Il y a la question de l'assurance aussi pour voyager. Alors, ça recommence très lentement, là, disons, dans le milieu aérien.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Alors, on va parler automobile. Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'auto qui est avec nous. Salut Antoine.
Salut.
Bon, et tu veux nous parler, en fait, t'as signé un texte, je dois dire, qui a attiré mon attention, je dois avouer, sur un mécanisme assez particulier où on dit rendre service aux consommateurs, mais c'est pas si simple que ça. Parle-nous de ça.
Ben, en fait, un mécanisme, c'est une stratégie pour vendre des produits d'assurance et de garantie sur un véhicule. Et on voit particulièrement ça, on le voit dans les véhicules neufs, on le voit dans les véhicules d'occasion, mais ça devient peut-être un petit peu plus facile de le faire lorsqu'on tombe, par exemple, en deuxième chance au crédit, où là, évidemment, les taux d'intérêt sont plus élevés. Alors, je m'explique. Un client se présente pour acheter un véhicule. Et là, que ce soit un véhicule neuf ou d'occasion, ça n'a pas d'importance. Ça a lieu autant dans un petit marchand de véhicules d'occasion de fonds de campagne que dans un gros concessionnaire de véhicules neufs bien établi qui fait partie d'une bannière connue. On voit ça partout.
OK. Donc, la personne a un mauvais crédit. Prenons l'exemple, le client n'a pas un très bon crédit.
La personne n'a pas un très bon crédit, peut avoir fait faillite, a besoin d'un financement pour un véhicule en deuxième chance au crédit. Et encore une fois, ça inclut aussi des gens qui ont un bon crédit, là. C'est juste que, comme le taux est plus élevé en deuxième chance au crédit, il y a plus de marge et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la personne se présente deuxième chance au crédit, dit vouloir acheter, je vous donne un exemple, une Kia Forte usagée qui coûte 15 000 $ On va lui proposer en deuxième chance au crédit la voiture à un taux de financement de 15 %.
Ouais, c'est pas très avantageux comme taux, là.
C'est pas très avantageux comme taux, mais
en deuxième chance au crédit, on comprend.
C'est ça. Puis on a vu des cas où les financements sont allés jusqu'à 30 %. Puis des gens qui font du prêt privé, 35, 40, on l'a vu, ça. Mais je veux dire, un 15 % en deuxième chance au crédit, c'est un taux jugé normal. On vous dit ça. Et là, le concessionnaire, le marchand va dire, ben écoute, si tu protèges ton prêt, c'est-à-dire si tu prends une garantie prolongée qui couvre la totalité de ton financement, si tu prends une assurance vie invalide sur le prêt, si tu prends une garantie de remplacement sur le véhicule, par exemple, ben à ce moment-là, peut-être qu'on accepterait de baisser le taux, mais ce qu'on va souvent dire pour inciter le client à prendre ces produits-là, c'est que la banque oblige la personne à prendre ces produits-là pour qu'on baisse le taux. Et là, on va baisser le taux à quoi? 12 % 10 % peut-être. Le problème, c'est que c'est carrément faux. La banque n'obligera jamais personne à acheter un produit qui provient du concessionnaire pour varier un taux d'intérêt. La façon que ça fonctionne... La façon que ça fonctionne, c'est que le concessionnaire en question a des ententes avec des institutions financières, la Scotia, la TD, nommez-les. On sait ce qu'on est capable d'offrir comme taux pour un produit X à une personne qui a un crédit X. Et on va jouer avec ça. Donc, la personne qui se présente pour acheter un véhicule en deuxième chance au crédit, le directeur financier qui lui vend le financement en question, parce qu'il ne faut pas oublier que le financement, c'est aussi un produit, on sait qu'on est capable de lui faire à 10 %. Mais on va d'abord lui offrir du 15. Ensuite, on va lui offrir l'option d'acheter des produits et, le cas échéant, de baisser le taux si elle achète ces produits-là. Alors,
mais question bien plate, là, mettons 5 % de moins, on baisse ton intérêt de 5 %. Ça baisse ton paiement. Ouais. Mais là, si tu rachètes une assurance sur ceci, ceci, cela, là, tu vas payer l'assurance, ça réaugmente ton paiement. Est-ce que tu économises vraiment ou est-ce que tout ce que tu payes en baisse de taux d'intérêt, tu le redonnes au garage sous une autre forme?
Alors, l'exemple que j'ai donné dans l'article que je signais cette semaine, c'est une personne que j'ai rencontrée qui, elle, a acheté neuve une Honda Civic 2019. Une Honda Civic relativement de base, voiture taxe incluse, qui coûte à peu près 25 000 $ À 15 % de taux d'intérêt, c'est une auto qui revient sur un financement de 7 ans à 40 000 $ Là, elle, on lui a obligé de prendre des produits. Donc, tout ce que je vous ai nommé précédemment, assurance vie, invalidité, garantie prolongée, garantie de remplacement ou assurance de remplacement. Et elle, en plus, elle a choisi, comme si c'était pas assez, de mettre un anti-rouille à 1 000 $ là-dessus. Et c'est une personne totalement naïve, là. Une personne qui s'est...
Donc là, elle donne tout ce que tu viens de me nommer, le 4 polices d'assurance plus un anti-rouille, elle donne 4 000 $ au concessionnaire, là.
Ah ben non, ben plus que ça.
Plus que ça?
Ah ben plus que ça. Là, on parle d'une voiture qui a un taux de 10 % revient à 50 500 $ au bout de 7 ans. Et j'ai pas les chiffres par cœur en tête.
Donc, les programmes d'assurance puis tout ça, elle donne 10 000 $ au concessionnaire. Je fais un chiffron, là.
10 000 $ facilement. Ajouter les taxes, ajouter le
prêt
à ça. Alors, elle, Autrement dit, elle aurait acheté une Civic à 15 % de taux d'intérêt, elle aurait payé 40 000, grosso modo, au bout de 7 ans. Et là, elle va se trouver à payer un peu plus de 50 000 parce qu'elle a mis 4 assurances et un anti-rouille sur la voiture.
Des assurances qui sont par ailleurs utiles ou largement inutiles?
Ben, écoute, ben honnêtement, une garantie prolongée sur une Civic comme elle a acheté, jamais j'aurais recommandé ça. Maintenant, je ne suis pas celui qui va dire n'achetez toujours jamais rien au concessionnaire. Moi, ce que j'essaie de dénoncer dans cet article-là, c'est le fait qu'on lui a compté une menterie. C'est le fait qu'on lui a dit la banque vous exige de prendre ça pour qu'on baisse le taux.
Alors donc, elle ne peut plus, elle, de son libre arbitre, décider chaque programme d'assurance. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que cette assurance me convient?
Exactement. Puis je veux dire, qu'un concessionnaire décide de vendre un produit, qu'il le vende 3 fois plus cher que le produit équivalent qui est offert par l'assurance de votre voiture, par exemple, libre au client de le choisir ou pas. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais là où j'ai un problème, c'est lorsqu'on utilise des tactiques mensongères pour vendre ce produit-là. Et j'ai poussé ma recherche un peu plus loin. Moi, j'ai parlé avec les gens de l'AMF. Il y a plusieurs concessionnaires de la grande région de Montréal qui ont été condamnés pour des pratiques de la sorte récemment. C'est public, vous pouvez trouver ça sur le site de l'AMF. J'ai aussi parlé à des compagnies d'assurance qui m'ont confirmé, des banques et des compagnies de financement qui m'ont confirmé que jamais une institution financière pouvait influencer ou exiger l'achat d'un autre produit. Alors, des cas comme ça, on en voit souvent. Il y a des directeurs financiers qui regardent leur poche, évidemment. Puis là, ben, tu sais, c'est des victimes faciles. Les gens qui
mais
sont naïfs.
Antoine, tu parles du bureau du directeur financier. On parle, je m'adresse aux gens qui ont vécu l'expérience d'acheter un véhicule au cours de dans la dernière décennie. C'était pas comme ça avant. Et moi, je me suis laissé dire par un vendeur, tu comprends, l'argent du concessionnaire, là, c'est dans le bureau du directeur financier qu'on l'a fait parce que le vendeur, il y a tellement de compétition. Je sais pas, tu vas acheter, mettons, tu vas acheter un Ford Escape, là, mais tu comprends, t'as le CR-V, t'as le RAV4 chez Toyota. Tu comprends, dans chaque compagnie, là, t'as un équivalent Forester, t'as du choix, puis là, ben, tu te mets à les comparer, là, tes paiements vont être à quelques piastres près équivalents pour des équipements équivalents. Là, tu peux aimer plus le piton de radio d'un ou de l'autre, mais tu comprends, la compétition est féroce pour des véhicules qui ont beaucoup d'équivalence à des prix très, très comparables. Donc, ils disent, on n'a pas le choix, là, tu sais, on peut pas faire. Donc, l'argent, on le fait où? On le fait soit sur les réparations de garantie chez le concessionnaire, tu sais, au service, ou on le fait quand la personne, dans le bureau du directeur financier, là, on y vend une protection, un rallonge, un ci, un ça, plus de. C'est ça qui est payant. C'est vrai ou c'est faux, ça?
Je vais tourner ça différemment. Prends un Nissan Rogue, par exemple, qui est le véhicule le plus populaire de chez Nissan. Ça se vend super bien. Alors ça, ce produit-là, le concessionnaire, s'il vend un modèle SV milieu de gamme, va faire autour entre 800 et 1000 $ sur le véhicule. Le concessionnaire,
c'est pas beaucoup, là. C'est pas une grosse marge, là. C'est un véhicule.
Les gens qui pensent que les concessionnaires font 3, 4, 5 000 sur une auto, là, oubliez ça. Pas sur le produit. Maintenant, je vais vous expliquer comment le concessionnaire fait de l'argent après. C'est au volume de vente qu'on va réussir. Si, par exemple, le concessionnaire réussit à vendre ou à dépasser ses objectifs mensuels et à vendre plus d'unités que l'objectif qui lui avait été ciblé, ben, il va recevoir une ristourne par en arrière de Nissan Canada dans ce cas-ci qui peut représenter 30, 40, 50 000 $. C'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est au volume qu'il y a aussi une ristourne qui revient et qui fait en sorte que le profit par véhicule va augmenter. Mais le véhicule comme tel qu'on vend, il n'y a pas beaucoup de profit dedans. Évidemment, si vous prenez un véhicule de 80 000 $, c'est une autre affaire. Mais dans le cas d'un véhicule de grande série, là, une Micra, là, on parle de 300 $ de profit. Il n'y a pas d'argent là-dedans.
Maintenant, donc, si dans le bureau du directeur financier, tu vends 2-3 assurances, protection à faire de plus, là, tu viens d'aller chercher un petit peu de marge.
Ah ben non, mais attends, je vais te donner un exemple. Si tu vends une assurance qui coûte 2000 $, le concessionnaire va facilement se mettre 800 $ dans les poches.
Donc, il va vendre une Micra, il va faire 300 $ à vendre du véhicule, il va vendre une assurance à Micra, il va faire 800 $ avec ça.
Exactement. C'est comme ça que ça marche. Il va vendre un anti-rouille. L'anti-rouille électronique qu'il va vous vendre, il va vous le vendre 900$, ça y coûte 35$. Il va vous vendre un protecteur de tissu pour protéger vos sièges. Si jamais vous échappez un café, l'eau va perler. C'est une canette à 25$, puis on va vous vendre ça 249$. C'est ce genre de produit-là qui est ultra payant pour un concessionnaire. Et pour comprendre une chose, c'est que quand on vend un produit comme ça chez un concessionnaire, il y en a bien qui vont regarder ça comme une grosse arnaque. Mais c'est pas tant le produit qu'on vend que la garantie qui vient avec. Autrement dit, peu importe ce qui arrive avec ton siège, s'il est taché, c'est garanti.
Ouais, c'est plutôt toi qui est responsable, c'est lui. Hey Antoine, on a vraiment plus de temps, c'est très intéressant, mais on va pouvoir t'entendre, si je comprends bien, dans notre programmation d'été à compter de lundi, on va pouvoir t'entendre toutes les semaines, là.
Exactement. Alors, je vais me prendre un petit peu de temps pour aller jaser justement de mes diverses chroniques que je publie sur le site du Guide de l'Auto chaque semaine. Et puis, on va pouvoir débattre là-dessus. Ça sera pas toujours des sujets de consommation comme celui que je viens de traiter. Je vais varier ça un peu. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais dénoncer parce que c'est un studio qui est de plus en plus commun.
Et ça rend voilà. Nos auditeurs plus aux aguets. Hey, merci beaucoup. Bon été, Antoine.
Bonne fête des
pères. Au revoir.
Ouais. Bye bye.
Et juste Mario dire parce oui. Qu'on avait Antoine Joubert, mais son collègue Germain Goyer du Guide de l'Auto a aussi sa chronique 16h45 le mardi. Ce sera dans le retour avec Jean-François Barry à partir de
le matin avec dans l'émission de Pierre Nantel. Exact.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le retour de Mario Dumont.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Alors, on est de retour. Grand défi, Pierre Lavoie, édition assez spéciale cette année. À peu près comme tout ce qu'on fait au Québec ou dans le monde cette année, il faut suivre toute une série de règles. Alors, on a utilisé la distanciation, je sais pas comment dire, avec des applications à chacun où on fait ses kilomètres et un grand mécanisme pour les additionner. Avec nous, un participant émérite au grand défi Pierre Lavoie, Pierre-Carl Péladeau, bonjour.
Bonjour, Mario, c'est beaucoup d'honneur que vous dites que vous le faites, que ça démérite.
Ah oui, bien, ça fait plusieurs fois quand même, là, plusieurs kilomètres de vélo à votre actif.
Oui, bien, je crois que ça fait, c'est mon 8e défi, mon 8e grand défi, là. Mais vous avez raison de dire que c'est un peu particulier cette année. Qui est particulièrement chaleureux, notamment, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres choses, là. C'est le fait d'être tous ensemble, tous et toutes, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de femmes, maintenant, qui participent au grand défi. Donc, de tous être regroupés pendant 3 jours, même 4, là, parce que dans le fond, en général, les dernières années, ça démarrait le jeudi jusqu'au dimanche. Et avec une arrivée vraiment exceptionnelle, en tout cas, pour moi, là, ça me fait tellement chaud au cœur. La grande majorité du temps, c'était au stade olympique. Et c'est la fête des pères. Alors, c'est d'autant plus touchant que tous les enfants attendent de leur papa, tous regroupés. Donc, c'est une épreuve exceptionnelle pour celui qui y participe. Mais c'est également aussi de lui payer le tribut nécessaire pour... saluer tout le travail que Pierre Lavoie fait depuis de nombreuses années. Pour Québécois, c'est la 11e fois que nous contribuons. Ça, c'est 300 au succès du Grand Prix de Pierre Lavoie. La seule édition que nous avons manquée, c'est la première. Parce que, effectivement, donc, le Grand Prix en est à sa 12e édition maintenant.
Ouais. Donc, cette année, il y a quand même des milliers et des milliers de personnes qui vont participer à leur façon, là. C'est-à-dire qu'on va virtuellement additionner des kilomètres de marche, de course, de vélo qui auront été faites aux quatre coins du Québec. Il y a quand même quelque chose de beau dans ça, même si les gens ne seront pas ensemble pour le faire, ou ils seront en famille, ou ils seront en petit groupe, mais on les additionne quand même, puis on voit le résultat total.
Oui, c'est assez fantastique, hein, parce que, donc... Il y a un engouement là, indéniable pour le Grand Prix. Être dans une équipe et participer, c'est quelque chose, je dirais, c'est un privilège dorénavant. Et c'est la raison pour laquelle Pierre a organisé la Grande Boucle, un événement là aussi où Québécois est extrêmement très étroitement associé. Où là, bon, c'est une épreuve qui va durer peut-être 120 km en moyenne, où là, le nombre de participants n'est pas calculé. Alors, c'est vraiment le moment donc, de participer. À chaque année, il y a encore davantage de participants qui, justement, se joignent à ce bel effort. Là, cette année, ben, c'est particulier, vous l'avez mentionné, c'est virtuel plutôt que physique, bien que il y a quand même eu un départ hier à la baie, puis il va y avoir également aussi une arrivée dimanche. D'ailleurs, moi,
il va y avoir une arrivée à Montréal dimanche. Il y a un groupe qui va partir de Sorel, ce que je voyais, Sorel-Tracy, pour rentrer à Montréal quand même.
C'est exact, c'est exact. Et je fais partie de ce groupe. Là aussi, je pense que, une fois de plus, je suis extrêmement privilégié. Mais là, dorénavant, effectivement, c'est encore plus élargi à participation. Il y a 1 million de kilomètres à faire, juste dans l'équipe de Salut Bonjour, qui, l'année dernière, donc, sous la férule, si je peux dire, de Gino Chouinard, comptait 5 participants. Mais cette année, il y en a 1000. Alors, imaginez-vous, ça va être un moment de célébration aussi, pour avoir du plaisir et faire la promotion, tout comme Pierre Lavoie, des saines habitudes de vie, parce que c'est ça l'exercice ultimement, et c'est un exercice qui, justement, rencontre ses objectifs à chaque année et encore davantage. Vous connaissez donc toute l'action entreprise par Pierre, par le Grand Défi, mais aussi, surtout, je dirais, depuis les dernières années, dans le milieu scolaire. Et c'est ainsi que ce mouvement s'est répandu de façon significative et qui, justement, permet donc, au niveau social, parce que c'est ça qu'on doit également aussi reconnaître chez Pierre Lavoie, c'est un entrepreneur social pour s'assurer, effectivement, de mettre en place les meilleures habitudes, les saines habitudes de vie, qui fait en sorte que notre collectivité, notre communauté est plus riche. Oui, certainement, économiquement, les entrepreneurs font leur travail, mais un entrepreneur comme Pierre, un entrepreneur social, nous sommes plus riches en santé. Et ça, pour une collectivité, c'est également, je pense, également très important.
Là, M. Pelladeau, vous faites ça prudemment, parce qu'on se souvient, au début de votre carrière politique, vous étiez arrivé à l'Assemblée nationale, drôlement endommagé par toute une débarque en vélo. Faut plus que ça se produise, là.
Oui, oui. Mais j'étais dans le cadre du Grand Prix. Et puis là, j'ai décidé, en plus de ça, je fais ça en paternité. Je pars avec mon frère et des collègues. On va faire un petit 120 km, là, donc pour compter justement donc, les kilomètres qui sont parmi donc le défi qui est lancé virtuellement. Et il est quoi, 15h25, le grand défi a commencé ce matin, puis il y a déjà 200 000 kilomètres d'accumulés, ce qui m'amène à conclure que le million va être facilement dépassé.
Il risque d'être atteint et dépassé. Bien, on vous souhaite des bonnes randonnées, et puis bravo à tous ceux qui participent au Grand Défi. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup, Mario, et aussi à vous remercier aussi, surtout, d'avoir fait ce travail fantastique depuis les derniers mois. Vous avez accompagné les Québécois et les Québécoises en information, vous avez fait un travail remarquable. Vous êtes parmi une équipe de grands professionnels. Merci beaucoup.
Bien, merci. Au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
Cube Radio. Autrement dit.
Alors, avec tout ce qui s'est dit dans cette pandémie, Vincent, sur est-ce qu'on aura un été? Des voyages, des vacances. Puis là, tout à coup, on est passé à l'autre extrême. On va voyager au Québec, tout le monde va voyager au Québec. Ça va être la manne pour l'industrie touristique québécoise. Puis on se demandait, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que les gens d'une région vont pouvoir aller dans l'autre région? On va essayer de voir comment ça se vit en ce début de saison, parce que quand même, cette date-ci, avec du si beau temps, il y a des gens qui, ceux qui ont de la liberté, qui sont à la retraite ou qui sont déjà en vacances, qui ont pu commencer à le faire. On s'en va dans l'Est du Québec. Alain Renault, propriétaire du manoir Percé, à Percé, évidemment. Bonjour, M. Renault.
Bonjour, M. Dumas.
Ça se passe comment chez vous, là?
Ça se passe bien, il fait très beau, puis on sent l'engouement des touristes là, qui commencent à arriver tranquillement. Et c'est ça, fait qu'on sent l'engouement présentement. On est très content de voir
le beau temps. Vous dites qu'il commence à arriver tranquillement. Est-ce que vous êtes à pleine capacité à l'heure actuelle ou c'est un début par rapport à une saison où il n'y aurait pas eu de pandémie? Est-ce que vous êtes en plus d'achalandage, moins d'achalandage ou à peu près équivalent?
Non, ben faut dire que le mois de juin est toujours le début de la saison, environ vers le début juin. Là, présentement, on sait que le COVID a dérangé. On est ouvert, nous autres, depuis une semaine et ça commence tranquillement. C'est sûr que c'est timide comme commencement, mais ça regarde bien par les réservations pour l'été. Faut dire qu'avant le COVID, on avait janvier, février, mars, ça avait été des gros mois de réservation. On était quasiment complet. À partir du 15 juin, c'était quasiment complet. Mais le trois quarts des réservations sont annulées après. Mais là, on a beaucoup, depuis un mois, on a beaucoup de réservations qui rentrent. Je dirais que juillet et août vont être deux gros mois, puis peut-être septembre aussi. On dirait qu'il y a un engouement des Québécois de venir visiter la Gaspésie, puis c'est quand même au Québec, ça se fait bien en road trip ou comme on veut. Ça fait qu'on n'a pas de d'autres provinces à passer.
Au manoir Percé, vous avez les deux. Vous avez hébergement et restauration, là. Corrigez-moi, mais il me semble bien que c'est le cas.
Oui, c'est ça.
On va regarder les deux. L'hébergement, là, puis là, je parle de la COVID. Là, je parle de tout ce que la santé publique vous oblige. L'hébergement, est-ce que ça vous complique la vie? Est-ce que vous perdez des nuitées pour la désinfection? Qu'est-ce qu'on vous oblige de faire, là?
Nous autres, comme c'est là, on n'est pas trop... Côté hébergement, ça va bien. Ça va bien aller. On a acheté un appareil. Mais c'est ma conjointe qui l'a acheté. Je pourrais pas dire le nom, là. C'est un appareil qui désinfecte un peu comme on a dans les salles d'opération des hôpitaux, là. Qui désinfecte la chambre, puis on peut la louer.
Donc, quand vous faites la chambre, en plus des draps et tout, vous passez cette machine-là?
On passe la machine avant de faire la chambre pour que nos employés ne soient pas affectés.
Oh, OK.
Et après, les femmes font le ménage tout de suite, parce que normalement, il faudra attendre 3 heures avant de faire le ménage. Ça fait que ça devenait compliqué. Mais avec cette machine-là, cet appareil, ce qui est le fun, c'est que on passe là, ça tout de suite, puis là, on peut commencer la chambre tout de suite. Ça fait qu'on n'a pas d'attente pour louer la chambre.
Puis, ça prend combien de temps passer à la machine?
Ah, c'est pas long. C'est pas long, à peu près 5 minutes par chambre.
OK, c'est pas si pire. OK. Fait que de côté hébergement, mais avec cette machine-là, vous vous en sortez pas si pire, bien vous désinfectez, vous assurez le prochain client qu'il n'y a pas de danger.
Oui, ben c'est ça, ça va être... Non, ça c'est... Ouais.
Les clients, ont-tu l'air inquiets? Est-ce qu'ils vous posent des questions sur tout ça, la salle de bain, la désinfection?
Pas comme c'est là, parce qu'on a mis toutes les affaires en place qui étaient indiquées. On a quand même... on a travaillé fort là-dessus, mais des choses en place. Fait que non, ils ne nous posent pas trop de questions. Ils savent... Okay.
Puis le restaurant?
Ben, nous autres, c'est ça, le restaurant, notre salle à manger, nous on l'a fermé pour cet été. On le savait pas, puis on a quand même 60 places, puis là, travailler avec 30 places, c'était un peu compliqué, puis avec le staff, on a pris une décision de ne pas l'ouvrir cet été dans la salle à manger, parce que nous autres, c'est pas un restaurant, c'est une salle à manger, c'est plus, c'est un petit peu différent.
Puis les autres restaurants à Percé, est-ce que la plupart des restaurants sont ouverts?
Oui, la plupart sont ouverts, oui, ils sont tous ouverts, à place réduite, là, bien sûr, mais ils sont tous ouverts, puis tout le monde est prêt, là, on voit l'engouement dans le village, les gens, ça peinture, ça fait plein de les beautés pour accueillir le monde, les gens arrivent, puis des touristes arrivent, fait que je pense qu'on va avoir une belle saison malgré tout, c'est sûr que, pour que les gens soient patients, c'est sûr que ce ne sera pas comme... Ça sera pas comme d'habitude, parce que tout est réduit après du 50% d'attente. Mais par contre, il n'y a pas de problème. Ça va bien aller, puis les gens sont heureux de. En tout cas, les appels qu'on reçoit, les gens ont hâte de venir. Mais moi, ma salle à manger est fermée, mais je vais quand même donner mon... Parce que moi, pour faire une histoire vite, je suis une entreprise de pêche. Je suis pêcheur d'homard à Parfait. Et mon homard est tout vendu dans mon restaurant. Pas tout au complet, mais une partie de mon homard est vendue dans ma salle à manger. Mais là, vu qu'elle est fermée, je vais faire du homard take-out pour sortir, puis les gens peuvent manger dans leur chambre. Ou peut-être sur la terrasse, parce que j'ai une terrasse, fait que je vais faire marcher ma terrasse, mais seulement du homard que j'ai pêché moi-même, qui va être sorti, qui va être...
Un bon lobster funny. Roll face au rocher percé, là, ça donne pas sa place. Là. Hein? Hey, Monsieur Renaud!
Les gens nous demandaient...
Monsieur Renaud, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance, bon été.
Okay, au plaisir.
Au revoir. Et on enchaîne. Ben, si vous descendez vers Percé, là, sur la 132, oui, Vincent, t'allais dire?
Ben, parce que moi, j'ai habité à Matane aussi, là. Alors, sur le chemin. Et quand j'étais petit aussi, le fameux capitaine Omar, là.
Fait que tu connais le prochain rendez-vous, là. Ouais, c'est un must, c'est en mythique, c'est un des restaurants sur le chemin qui est très apprécié, quelque part, entre Rimouski et Matane, à mi-chemin, le capitaine Omar à Sainte-Flavie. Laurence Marquis en est la propriétaire. Bonjour.
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Oui, vous avez commencé à voir passer du monde au Capitaine Omar?
Ben oui, absolument. Mais nous, ça fait un petit moment qu'on est ouvert, là, pas le restaurant, évidemment. Là. Mais on a plusieurs services, dont une poissonnerie. Fait que ça fait depuis le 8 mai dernier qu'on est ouvert.
OK, donc la partie poissonnerie, vous aviez le droit d'ouvrir, là?
Oui, c'est ça, étant donné qu'on est un service essentiel, mais comme vous le savez probablement, on est nouvellement propriétaire. Fait que c'est pas l'ouverture qu'on s'attendait nécessairement cette année. Oui. Ça va là, un peu petit à petit. Fait que on a comme eu plusieurs ouvertures, mais c'est ça. Cette semaine, c'est comme la grande ouverture des restaurants. Puis on est bien contents, ça va bien, ça fait du bien de voir.
Une table sur deux?
Une table sur deux, oui, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas un gros entrepôt pour mettre toutes nos tables pour l'instant. Là. Fait que oui, c'est ça. C'est une table sur deux en ce moment.
Est-ce que vous voyez, parce que c'est la première clientèle, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes ouvert, est-ce que c'est les locaux qui sont allés vous encourager ou est-ce qu'il y a quand même des gens de passage un peu, des gens d'autres régions qui passent en touriste? Qu'est-ce que vous observez?
Je vous dirais que c'est un bon mélange des deux. On a beaucoup de locaux, on a beaucoup de gens, des touristes, des Québécois, évidemment, cette année, beaucoup.
Ouais.
Puis je pense que tout le monde, là, autant de Rimouski, des alentours que de l'extérieur, on avait tout hâte, moi inclusivement, on avait tout hâte de voir du monde, on avait hâte de sortir un petit peu puis d'avoir l'esprit là, justement de la restauration qui est le fun là, de sortir, de se faire servir, d'avoir un beau coucher de soleil à côté, le soleil fort aussi. Fait que je pense que ça fait du bien à tout le monde. Fait que notre petite ouverture, c'est pas faite comme prévu, mais on est quand même assez satisfait pour l'instant de comment ça va malgré tout.
Êtes-vous optimiste pour la saison qui s'en vient?
Ben, je suis optimiste. Je vois vraiment, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie. Fait que je pense que j'essaie de rester positive. C'est une belle entreprise qu'on a. C'est un beau coin de pays qu'on a aussi en Gaspésie. Fait que oui, je suis positive. Puis s'il fallait être négatif, je pense que il faudrait s'arrêter là parce que c'est pas ça d'être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est d'aller voir toujours un petit peu plus loin. Fait que je pense que c'est une dure année, mais malgré tout, il y a des points positifs. Puis ça peut juste mieux aller.
Le homard est bon?
On est positif. Le homard est délicieux, évidemment. Du homard de la Gaspésie, je me trompe pas, là. Je pense que ça fait l'affaire de tout le monde que le homard soit prêt justement pour la saison estivale. Fait que oui, le homard est délicieux, effectivement.
Madame Marquis, bon été. Bonne chance.
Merci beaucoup.
Au revoir, Laurence Marquis, la propriétaire du Capitaine Omar à Sainte-Flavie. Pour les gens qui ne savent pas c'est où Sainte-Flavie, Vincent, là,
oui.
C'est là que tu arrives à une croisée de chemin.
Oui.
C'est écrit 132S à droite, 132S tout droit. Fait que si t'as jamais compris que la Gaspésie, c'est la 132 qui fait le tour, là, t'es perdu. Tu dis, OK, 132S, 132S.
C'est les deux choix.
C'est unique au Québec, là. Je pense pas qu'il y a d'autres endroits où, tu sais, t'as une route qui est annoncée la même avec deux flèches différentes, là. Tout droit, 132S. À droite, 132S. Mais bon.
Mais j'avoue que prendre la route vers la Gaspésie, c'est pas qu'il y a beaucoup de gens en ville qui rêvaient de ça il n'y a pas si longtemps et qui vont peut-être s'y diriger là, dans les prochaines semaines.
Je vais te donner mon dernier conseil aux gens qui sont jamais allés en Gaspésie, qui vont y aller. Parce que j'en ai trop vu ou trop entendu qu'ils disent, ben, Gaspésie, on a fait ça en deux jours, rien là. C'est parce qu'il faut que tu débarques de ton char.
Ah non, ben oui, ben, deux jours.
Non, mais il y en a vraiment, il y en a qui vont coucher à l'autre bout, puis ils reviennent, puis ils passent par le nord, ils reviennent par le sud, ou ils repassent par le sud, ils reviennent par le nord, puis ils disent, ben rien là. C'est sûr que si tu restes dans ton char, c'est une route en asphalte.
Ben, c'est ça, faut apprendre à ralentir un peu aussi, là, pour apprécier le paysage, faire le tour des villages.
Voilà, puis aller voir un peu. Là.
Voilà.
Aller voir et goûter.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Mario Dumont.
Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois.
La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
La politique autrement dit.
Alors, c'est l'heure de faire le tour du monde de l'actualité internationale avec Normand Lester. Bonjour, Normand.
Bonjour. Malheureusement, à notre époque, le monde, ça revient souvent sur les États-Unis.
Oui. Mais là, on va commencer par parler du Canada un peu, parce qu'il y avait de grands enjeux internationaux cette semaine pour M. Trudeau. Conseil de sécurité de l'ONU, les Canadiens en Chine. Pas une super bonne semaine pour M. Trudeau, là.
Non, une très mauvaise semaine. D'abord, la défaite humiliante de Justin Trudeau pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Déjà, Harper avait eu une rebuffade en 2010 pour obtenir un siège au Conseil de sécurité. Et Trudeau, dès 2015, a commencé pendant 4 ans. Il a fait du lobbying international pour que le Canada obtienne le siège et non les deux sièges qui sont attribués à des pays européens ou occidentaux.
C'est des pays Norvège, petits quand même, c'est pas des puissances, là. Des pays qui sont la moitié de la c'est des pays petits, c'est des pays la moitié de la grosseur du Québec, là.
Voilà, exactement. Mais ce sont des pays qui dépensent plus que le Canada pour l'aide internationale et qui contribuent plus aussi aux missions de la paix des Nations Unies. Ces deux critères importants pour remporter un siège au Conseil de sécurité. Mais d'après moi, c'est pas ça qui a été décisif. C'est l'appui du gouvernement libéral Trudeau à Israël, comme d'ailleurs celui d'Harper avant lui. Pour moi, c'est la principale raison des deux revers successifs d'Ottawa. Je t'explique pourquoi. C'est qu'Ottawa vote régulièrement contre ou s'abstient sur les résolutions récurrentes à l'ONU là, concernant Israël, notamment sur la souveraineté de Jérusalem-Est et les colonies de peuplement juives en Cisjordanie occupée, alors que l'Irlande et la Norvège sont deux pays qui ont une politique plus équilibrée sur le conflit israélo-palestinien. Puis il ne faut pas l'oublier, l'immense majorité des membres de l'ONU sont sympathiques à la cause palestinienne. Puis une autre chose, 50 pays des Nations Unies ont des populations à majorité musulmane. Donc, tant que le Canada va garder une politique étrangère proche d'Israël, je pense que ses chances, que ce soit en 2030, 2040, 2050, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'obtenir un siège au Conseil de sécurité.
Remarque. Mais toutes les démarches, là, souviens-toi de la crise ferroviaire au Canada, là. M. Trudeau, qui à ce moment-là était en train de faire des démarches en Afrique, avait passé beaucoup de temps en Afrique. Est-ce que ça a donné des résultats, ça?
Ben non, ça n'a pas donné des résultats parce que ce qui s'appelle le groupe des 77, qu'avant on appelait le groupe des pays non alignés, a voté pour les pays, pour la Norvège et puis pour l'Irlande, parce que c'est des pays qu'ils jugent qui ont une politique étrangère plus sympathique aux Nations Unies, puis ont une politique plus équilibrée vis-à-vis Israël. Donc, toutes les démarches de Trudeau sont pas données grand-chose. Même en décembre dernier, Trudeau, tout à coup, a compris que la question israélienne serait importante. Il a décidé, tout d'un coup, qu'il allait reconnaître un État palestinien au Moyen-Orient en disant si je fais ça, je vais gagner des voix. Mais ça n'a pas été suffisant là pour amener la majorité des membres de l'ONU et du Conseil de sécurité de voter.
Et là, nos deux Canadiens en Chine là, qui font face donc à des accusations plus graves.
Oui, ben des accusations d'espionnage, sauf qu'on sait pas quoi. D'après moi, là, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est simplement un spécialiste des questions internationales qui travaille pour une organisation qui suit le développement, qui est un analyste international. Et l'autre, c'est un homme d'affaires. D'après moi, ils n'ont pas fait d'espionnage. D'ailleurs, il n'y a eu aucune information pour préciser là le genre d'accusation d'espionnage qu'ils ont fait. Et de plus, ils sont gardés dans des conditions absolument épouvantables dans une prison chinoise. Ils sont confinés à une petite cellule, chacun, avec la lumière qui est ouverte 24 heures par jour. Ils peuvent pas rencontrer leurs avocats. Essentiellement, ce que les Chinois veulent, que le gouvernement libère Meng Wanzhou, là, une des dirigeantes du groupe Huawei, elle est présidente des questions financières, puis elle est aussi la fille du fondateur. Elle a été arrêtée à Vancouver à la demande des États-Unis. Elle est encore en se défend pour essayer d'éviter son extradition, mais elle au moins vit dans sa maison de luxe à Vancouver, puis donc, à part ça, donc tout ce qu'elle fait, elle fait comme nous, un semi-confinement, mais elle n'est pas plus harcelée que ça. Maintenant, comment ça va finir tout ça? Dans le fond, ça va dépendre de Washington, et puis Trump a dit là à plusieurs reprises jusqu'à maintenant qu'il abandonnerait les accusations contre elle à condition qu'il y ait une entente commerciale avec la Chine qu'il juge acceptable. Donc, malheureusement, là-dedans, le Canada, on est un peu, on sert d'intermédiaire, et puis de vous dire, dans les négociations entre la Chine et les États-Unis. Et puis, ben, si on regarde ce qui se passe en Chine, évidemment, ce qui arrive à Hong Kong depuis un an, les incidents récents à la frontière avec l'Inde, les chicanes de la Chine avec l'Australie, disons que c'est la puissance montante sur la planète, et puis ils semblent pas tellement plus sympathiques au niveau international que le rôle que les États-Unis ont joué jusqu'à maintenant.
Ouais. Normand, parlons justement des États-Unis. Donald Trump a eu, je pense, un début de mois de juin très, très difficile. Veut probablement changer un peu le rythme avec cette réunion, ce grand rassemblement demain à Tulsa. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes, évidemment, parce que c'est une zone qui est très sensible. On a dû le changer de date. Et aussi parce que ce rassemblement brise à peu près toutes les règles des autorités américaines en matière de santé. Il y a des inquiétudes qu'il y en ait qui attrape la COVID là-bas. Là.
Écoute, c'est fou cette affaire-là. Premièrement, la réunion devait avoir lieu aujourd'hui, et puis là, tout à coup, il y a des gens qui sont mis à crier, oui, mais c'est la fête qui honore l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Vous pouvez pas faire un meeting politique, ça. Alors, Trump a décidé de le changer d'une journée, plutôt que de le faire aujourd'hui, il le fait demain. Mais simplement le fait d'avoir choisi la ville de Tulsa en Oklahoma, c'est une insulte aux Noirs américains, parce que cette ville-là, il y a 99 ans, en juin, donc en 1921, a été la scène d'un des plus gros massacres de Noirs de l'histoire des États-Unis. Ça s'appelle dans l'histoire le massacre de Tulsa, où il y a au moins 300 Noirs qui ont été tués par des foules blanches dans le quartier noir de la ville, qui était à ce moment-là le plus prospère des États-Unis. Et bien sûr, ils ont brûlé aussi des églises, des maisons, des écoles. Il n'y a personne qui a jamais été accusé de rien. Même la police de Tulsa, à l'époque, s'était mise du côté des émeutiers pour tuer des Noirs, puis Trump fait aujourd'hui son meeting, donc, dans cette ville-là. Mais ce qui est absurde aussi, puis là, il faut parler de stupidité sociale, c'est que tout le monde aux États-Unis, y compris le centre de contrôle, le Center for Disease Control, dit attention, il ne faut pas y avoir de rassemblement. S'il y a des rassemblements, il faut porter des masques. Eh bien là, il va y avoir un rassemblement énorme, au moins 19 000 personnes et probablement peut-être des milliers ou des dizaines de milliers à l'extérieur. On va bien sûr distribuer des masques, mais les gens n'auront pas besoin de les porter. Mais ce qui est là, l'exemple total de stupidité sociale, Trump va cependant exiger que les gens qui vont rentrer dans l'édifice signent un document comme quoi ils ne tiennent pas Trump et sa campagne électorale responsable de toute maladie qu'il pourrait
prendre. Parce que tu sais que le nombre de cas, l'Oklahoma, le nombre de cas est en hausse. Hein? C'est un des États là,
oui,
où le nombre de cas est en hausse.
Il y a actuellement une hausse monumentale. Mais hein, comment peut-on appeler ça autrement que la stupidité sociale de la part des gens qui vont là Pourquoi? Ben parce que Trump leur a dit, ben non, regarde, moi, j'en porte pas de masque, c'est pas vraiment important, ça existe pas vraiment, le coronavirus, il y a pas de danger. Mais malheureusement, ces gens-là là, mettent leur vie en danger, et Trump le comprend aussi, puisqu'il leur fait signer un papier comme quoi...
Ben, parlons-en des impressions sur Trump, parce que son ancien conseiller à sécurité nationale, John Bolton, qui sort tout un livre au sujet du président...
Oui, puis oublie pas, John Bolton, c'est un ultra-conservateur, hein? C'est un homme de droite, une espèce de vote en guerre contre l'Iran, contre l'Irak. C'est un gars qui voulait politique dure vis-à-vis la Chine, vis-à-vis la Russie. Puis là, il était le conseiller à la sécurité nationale de Trump. Il présente Trump comme une espèce d'ignorant total, inapte à diriger le pays, qui a même, selon lui, quémandé l'aide de la Chine pour se faire réélire. Pour montrer comment Trump est ignorant, Bolton rapporte qu'à un moment donné, Trump ne savait pas que la Finlande est un pays indépendant. Il pensait que la Finlande, ça faisait partie de la Russie. C'est pour te demander comment... Il connaît absolument rien, sauf l'immobilier à New York. En tout cas, c'est ce que Bolton dit dans son... Puis il dit aussi, c'est ça, que durant une rencontre avec le président chinois Xi, il a dit, ben écoute, la campagne électorale s'en vient, j'aurais besoin de ton aide, il faut que tu...
Ça, c'est énorme, ça, là.
De agricole massif dans le Midwest, parce que ça va m'aider. Hein, ben ça veut dire... Ça mérite une procédure de destitution, enfin, comme ce que Trump fait une fois par semaine.
Ouais, c'est quand même énorme là, comme situation. Après tout ce qu'on a dit sur l'ingérence russe dans la dernière élection, qui demande de l'aide à la Chine, c'est surréaliste, là.
Oui, puis Bolton, hein, qui est un spécialiste des questions internationales, il a travaillé pour pour les deux administrations Bush avant, dit, ben voilà, Trump est pas de classe, tu sais. Quand on se rencontre avec Poutine, on voit bien que Poutine est un gars qui est parfaitement renseigné, qui connaît bien les négociations et tout ça. Et Trump, devant lui, c'est un deux de pique. Il sait pas ce que... Il a pas préparé ses questions. Il dit n'importe quoi. Il se contredit. Alors, c'est vraiment... C'est un livre épouvantable sur Trump. Bien sûr, il tente, là. Il a entrepris des procédures judiciaires pour empêcher sa publication. Mais manifestement, Bolton et sa maison d'édition en ont distribué des dizaines d'exemplaires.
Le mal est déjà fait.
Puis il est déjà le premier sur la liste des best-sellers d'Amazon quand il va sortir là, dans quelques jours, si jamais il sort. Mais là, ce que Trump essaie de faire, c'est d'empêcher Bolton de collecter des droits d'auteur en disant... Ben, Bolton a violé, en faisant ce livre-là, des secrets nationaux. Il a violé des secrets d'État, puis il faut que le gouvernement saisisse ses biens d'auteur. Mais c'est déjà ça. Trump se contredit déjà lui-même là-dedans, parce qu'il a envoyé un tweet en disant « c'est tout des mensonges, il n'y a rien de vrai, et c'est toutes des choses inventées qu'il dit ». Puis en même temps, son avocat dit il faut saisir les droits d'auteur de Bolton.
Parce que ce sont des secrets d'État. Normand, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour toute cette saison à nous faire vivre et nous résumer ce qui se passe un peu partout sur la planète. Salut, bon été. Salut. Alors Vincent, dans les choses qu'on surveille, l'Organisation mondiale de la santé là, qui a quand même répété son inquiétude pour la suite des choses.
Oui, parce qu'on parlait de la Floride, Oklahoma, je voyais les chiffres en Arizona qui sont inquiétants aux États-Unis, mais c'est pas seulement aux États-Unis qu'il y a des rebonds de cas de la COVID-19, ça amène l'OMS à ça. D'ailleurs, c'est le cas en Italie hein, qui s'inquiète, rebond, mais à Rome, entre autres, on s'inquiète d'une circulation du virus qui est encore importante, et là, l'OMS dit on est dans une phase dangereuse. Je pense que qu'il résume quand même assez bien, c'est-à-dire que le virus est encore là et les pays sont en mode déconfinement. Il y en a beaucoup, dit le monde, est fatigué de rester à la maison, fatigué des mesures. Alors on est très vite à tout lâcher là, puis à se dire ok, c'est terminé. Le problème, c'est que ça repart et on s'imagine l'humeur générale. Est-ce que les gens sont capables de encaisser un nouveau confinement ou d'autres règles très sévères quand ça va repartir dans certains pays? Ça va être difficile, là. Alors on demande la vigilance et que les gens lâchent pas sur les mesures de distanciation, le masque et tout ça.
On se souvient de l'entrevue qu'on a faite cette semaine avec une femme à Pékin qui vivait le reconfinement. Ça passe pas bien. Et Vincent, donc on surveille, on en parlait avec Normand, mais donc les yeux aux États-Unis vont être rivés beaucoup sur la ville de Tulsa en Oklahoma, parce que dès ce soir, on doit commencer des mesures exceptionnelles pour protéger l'événement du président.
Oui, il y a déjà des gens qui campent là, depuis des jours là, pour pouvoir entrer à l'intérieur de cet amphithéâtre. Et alors qu'aujourd'hui, on en parlait, là, c'est cette journée 155e anniversaire là, du jour où les derniers esclaves au Texas ont appris qu'ils étaient libres. Journée importante, il y aura des manifestations. Et Trump a mis en garde les manifestants sur Twitter aujourd'hui, disant tous les manifestants anarchistes, agitateurs, pillards, voyous, ou disaient des low-life, là, des pas de vie, qui allaient venir dans l'Oklahoma. Comprenez bien, s'il vous plaît, vous ne serez pas traités comme vous l'avez été à New York, Seattle ou Minneapolis. Ce sera une scène bien différente. Alors, en gros, promet que ils vont se faire tabasser, là, des menaces carrément auprès des manifestants. Ensuite, la Maison-Blanche est revenue en disant non, on parlait des manifestants là, violents, pas des pacifiques, mais est-ce que ça va faire monter le ton? C'est possible.
Ah, Vincent, voilà qui conclut notre saison. Je vais commencer par remercier nos auditeurs, leur donner rendez-vous à la rentrée au mois d'août. Je te remercie toi, je te souhaite un bon été.
Merci, en espérant qu'on revienne à l'automne, l'après-midi. Mario, avec des bonnes nouvelles puis une vie normale.
Oui, les meilleures nouvelles possibles. Remerciements à Luc Fortin, qui est au contenu, le grand patron du contenu à Cube Radio. À la mise en onde, là, ils se sont relayés toute la saison. Sam, Gabriel, Max et Joanie. À la recherche, Alexandre, qui tient le fort, mais qui a été aidé à plusieurs reprises par Frédéric, Marie-Pierre et Véronique. Donc, merci à vous tous et aux auditeurs que je remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite surtout un très, très, très bel été. Essayez de profiter pleinement, même si vous n'avez pas 100% des activités. Profitez pleinement de ce que vous aurez. Vincent, merci. Salut, bon été.
Salut, toi aussi.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.